au pied de la falaise calcaire des Aisy de Taillac, en Dordogne, un abri naturel, l'abri Pateau, est venu vers la fin des années 50 enrichir le patrimoine préhistorique d'une région déjà célèbre pour la splendeur de ses sites, véritable berceau des hommes du Paléolithique supérieur. La falaise surplombe la Vézère qui a creusé sa vallée pendant tout le Quaternaire. Les hommes de Néandertal, les Moustériens, s'étaient installés il y a environ 40 000 ans au bord de la rivière. On a retrouvé leurs traces tout près d'ici, dans l'abri Vigneault. Des éclats à bord rectifiés en retouche continue, des pièces encochées ou denticulées pour travailler le bois, des racloirs en silex pour préparer les pots. Sur les terrasses de l'abri Pateau, du nom du propriétaire des lieux, le professeur américain Alam Movius, interpellé par la découverte de vestiges préhistoriques, entreprend de 1958 à 1964 des fouilles méthodiques. Il met au jour 9,25 m de couches archéologiques, fantastiques maillons de la chaîne reliant les hommes de Néandertal aux Magdaléniens. Couches archéologiques ont permis de remonter 15 000 ans d'occupation humaine et de parvenir jusqu'au premier plancher rocheux, recouvert d'une couche de sédiments correspondant aux Moustériens. Au-dessus de ces dépôts s'installent, il y a 35 000 ans, les premiers occupants de l'abri, les hommes de Cro-Magnon. Très proches de nous, explorateurs du cosmos, ils sont les premiers hommes modernes. À cette époque, le climat connaît un fort refroidissement et les glaciers descendent jusqu'à 600 mètres d'altitude. Les hivers sont rigoureux, les printemps pluvieux, les étés frais. Les premiers occupants de Pateau découvrent au pied de la falaise une vaste plateforme de 90 mètres de long sur quelques mètres de large. Elle est orientée sud-sud-ouest, très ensoleillée, idéale pour se protéger du froid et des dangers environnants. La première civilisation des Cro-Magnons, les Aurignaciens, s'est développée pendant environ 3000 ans. Au milieu de restes de nourriture, les chercheurs ont retrouvé des outils robustes aménagés sur des éclats grossiers, mais aussi des lames retouchées, des grattoirs, des burins, techniques nouvelles caractéristiques du Paléolithique supérieur. Des pointes en os servait à armer les sagaies pour la chasse. L'abondance des restes culinaires de rennes montre que cet animal était pour les chasseurs aurignaciens un gibier de choix. L'examen des débris osseux, des mandibules, des bois de massacre prouve que les hommes rapportaient les corps entiers et les débitaient sur place. La pyramide des âges des bêtes abattues est celle d'une population naturelle. Bien que le renne fût le plus chassé, d'autres espèces, comme le cheval, étaient également présentes. Les chasseurs se postaient sur les points de passage du gibier, les abreuvoirs, les gués ou les rivières. La répartition des objets sur les sols d'habitat a permis à Alam Movius de reconstituer les campements de ces chasseurs. Ainsi, la couche 7 a révélé une structure très intéressante. Trois foyers successifs, suggérant un séjour de courte durée, ont brûlé à l'intérieur d'une grande dépression ovale située en avant de la paroi de l'abri. Les foyers étaient remplis de galets de rivière détériorés par la chaleur. Peut-être étaient-ils chauffés pour servir de radiateur. Sur la bordure sud de la dépression étaient dressées de grandes dalles de calcaire, structure dont le rôle nous échappe. Cet ensemble a permis la reconstitution d'une cabane. Elle était probablement recouverte de peau de renne, peau qui était également utilisée pour la confection des vêtements. Cet habitat témoigne d'une vie sociale organisée. L'abri servait-il de halte pour une ou plusieurs familles? Il est impossible de le dire, mais force est de constater qu'autour de Pato existe une concentration d'habitats datant tous de la même époque. L'abri du poisson, la ferracie, oreille d'enfer, les abris blanchards, castanet, la souquette. Dans certains sites ont été découvertes des sculptures phalliques et des gravures de vulves, images sexuelles témoins de l'apparition de l'art préhistorique. Les gravures de vulves sont les plus nombreuses. Les plus anciennes représentations des Aurignaciens sont en deux dimensions. Les gestes de ces créateurs d'images impriment pour la première fois sur ces blocs, sur ces éclats, le désir d'appropriation, d'imitation et de possession, marque des préoccupations du monde de l'esprit. Ces figures sont souvent accompagnées de gravures très rudimentaires d'animaux. Les siècles se succèdent, les climats fluctuent, le gel délite le toit et la paroi de l'abri, les blocs effondrés et les sédiments éoliens s'accumulent, le niveau du sol s'élève. Suit une période de près de 7000 ans, le Périgordien, dont seul Pato détient tous les enchaînements. Elle est inaugurée par de nouveaux arrivants, les Gravettiens. Remarquables artisans, ils utilisent de lourds pics pour sculpter la pierre et des burins de silex pour tailler le bois ou l'os de renne. Les sagaies, et d'une manière générale tous les outils réalisés par les Gravettiens, sont plus légers, plus élancés que ceux que façonnaient leurs prédécesseurs. Le niveau Gravettien a livré, au milieu d'une masse d'éclats de silex, plus de 4000 outils de pierre, grattoirs, burins de tout type, fléchettes, microgravette et pointe de la gravette. La découpe de ces pièces confirme les progrès techniques accomplis par cette civilisation. Dans le niveau 4, le Noaïen, parmi des objets utilitaires, des éléments de parure ont été découverts, des pendeloques de pierre, de coquilles, d'ivoire, des dents percées. Des crayons d'ocre, des fragments de kaolin, des morceaux de manganèse témoignent que les Noaïens dessinaient et peignaient. À cette époque, Patau était le lieu d'une activité intense. Les coquilles marines et fossiles laissent supposer que les hommes se déplaçaient et peut-être même se livraient au troc avec d'autres groupes. Les rares fragments d'ivoire de mammouth indiquent que ces animaux n'étaient certainement pas chassés, mais plutôt que les défenses étaient récupérées sur leurs cadavres pour fabriquer des objets de parure ou utilitaires. C'est dans cette couche que l'on a trouvé le plus grand nombre de petits burins, dits de Noailles. L'industrie osseuse du Noaïen est marquée par une arme de grande taille, très particulière, la sagaie d'Istouritz. On ne la trouve en quantité que dans deux gisements, à Istouritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, et à Patau. Ces pointes sont striées à leur base de fixation. Dans le niveau 3, attribué au Périgordien 6, la mise au jour d'un sol d'habitat a permis de reconstituer un nouveau type d'habitation. 5 foyers en cuvette remplis de cendres étaient alignés à 2 mètres d'intervalle. Les galets de la Vézère étaient éparpillés tout autour. Leur type de détérioration par la chaleur et leur présence hors des foyers font croire qu'ils pouvaient être plongés brûlants dans l'eau de récipients pour la chauffer. Les 3 foyers sont cernés par une zone fortement ocrée, elle-même entourée d'un sol jonché de débris. Quelques restes de poissons indiquent que la pêche fait son apparition. Cet espace de vie jouxte la paroi rocheuse au pied de laquelle sont dispersées des plaquettes de falaise enduites d'ocre rouge. Un espace sans objet à l'une des extrémités pourrait correspondre à l'entrée. La cabane s'appuyait probablement sur la paroi de l'abri. Il y a 22 000 ans, les habitants de Patau et ceux de Laugerie Haute, 2 kilomètres plus loin, gravaient d'énigmatiques figures ovales. La similitude de ces signes démontre que ces hommes se connaissaient bien ou qu'il s'agissait des mêmes qui allaient d'un abri à l'autre. Durant tout le Périgordien, l'activité artistique est intense. De nombreuses plaques détachées de la paroi portent des traces, malheureusement indéchiffrables, de peintures mono ou polychromes et des traits gravés. Des objets sont ornés de gravures figuratives, comme ce petit galet de rivière où 3 têtes de bison s'enchevêtrent. Sur cet autre galet, on discerne une tête de biche. Ici, le modelé d'une Vénus. Les Noaïens gravent également des images sexuelles et des signes énigmatiques. Leurs représentations animales sont de mieux en mieux maîtrisées et montrent une certaine unité de style. Les courbes d'encolure et de dos sont dessinées d'un trait assuré. On voit apparaître des détails qui caractérisent les espèces. Elles sont figurées en profil absolu ou de face. Style que l'on retrouve pour ce poisson gravé sur un bois de renne. Parallèlement, la sculpture se développe. Un grand saumon orne la voûte de l'abri du poisson. D'extraordinaires Vénus opulentes sont sculptées ou gravées sur la roche. La Vénus à la corne de l'ocelle, imposante par sa taille et la maîtrise de son style. Les Vénus de Thermopyala. 2000 ans après le Périgordien VI, une tradition nouvelle apparaît à Pateau et à Laugerie Haute, le proto-magdalénien, civilisation pendant laquelle les hommes ont façonné de grandes lames de silex à bord retouché, dont l'extrémité est quelquefois aménagée en grattoir. Près du tiers des outils découverts dans ce niveau sont surtout des lamelles à dos, la plupart malheureusement cassées. Un lot de 28 lamelles regroupées évoque un atelier de taille. Toutefois, ce niveau n'a pas révélé d'habitation organisée, très probablement parce que le fond de l'abri, déjà presque comblé, était devenu difficilement habitable. En revanche, cette couche a livré deux crânes de biche se faisant face, avec un crâne de faon superposé à l'un d'eux. Configuration exceptionnelle qui ne peut être le fait du hasard. Enfin et surtout, les plus importants restes humains ont été trouvés ici. Ils sont attribués à 7 individus, un homme, 2 femmes et 4 enfants. De ces restes très fragmentaires et souvent éparpillés, le plus remarquable est le crâne complet d'une jeune femme de 16 ans qui semblait accompagnée d'un nourrisson d'un mois. On suppose qu'elle est morte des suites de son accouchement. Sur un bloc, près de sa sépulture, un signe vulvaire est gravé. Le crâne se trouvait à 4 mètres du squelette. Le squelette était si complet qu'il a été possible de reconstituer scientifiquement la morphologie de cette jeune femme. Elle fut appelée pour la circonstance Madame Pateau. Quelle coutume, quel rite présidait aux sépultures des proto-magdaléniens? À Pateau, le mystère reste entier. Une chose est sûre, pour ces hommes, la parure avait une grande importance. Une centaine de perles en os ont été recueillies dans ce même niveau. La manufacture d'outils restait très active, comme le prouve, entre autres, ce bois de renne percé destiné à redresser les pointes de saguet. On a découvert à Laugerie Haute un bâton percé de la même époque, orné de 2 mammouths affrontés. Le dernier épisode de l'occupation de Pateau prend place il y a 20 000 ans avec les Solutréens. Avec eux, l'art du silex taillé atteint un sommet. Ces pointes, dites en feuilles de laurier, attestent le raffinement technique et le talent des Solutréens. Les poinçons servaient probablement à percer et coudre les peaux de bêtes. C'est la période la plus froide de l'histoire de Pateau. Il faut se protéger. On invente et on circule. De grands artistes sillonnent le Périgord. Ils sculptent d'admirables bas-reliefs, un bouquetin à pâteau, des chevaux, des bisons, des bouquetins aux rocs de serre, des bovins aux fourneaux du diable. À travers 40 phases d'occupation humaine, l'abri Pâteau a donc offert au professeur Moebius et à tous les préhistoriens un exceptionnel voyage de 35 000 à 18 000 ans avant Jésus-Christ. Dans un enchaînement parfait, on y voit évoluer et s'affirmer l'industrie du silex et naître l'art, témoignage d'une étape majeure de l'aventure humaine. Cet art paléolithique déjà conventionnel va se perpétuer dans des sites fort éloignés. Il exprime tout le poids des traditions orales, des règles graphiques, le besoin d'expression codifiée d'une civilisation dépassant le cadre de la tribu. L'abri Pâteau ouvre les portes de l'art magdalénien.